Vous êtes sur RTL. RTL Midi, le 12h,
Agnès Bonfillon, Pascal Praud.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et donc l'information jusqu'à 13h, c'est avec vous Agnès Bonfillon, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. À la une, cette famille décimée la nuit dernière dans l'incendie de sa maison à Charly-sur-Marne dans l'Aisne. 7 enfants et leur mère sont morts asphyxiés. Le père de famille, lui, a été gravement brûlé mais s'en sort vivant. Dans l'actualité également, le bilan du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie ne cesse de s'alourdir. Des milliers de personnes ont été tuées. La communauté internationale s'organise pour envoyer de l'aide d'urgence. Troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Demain, comme à chaque fois, RTL vous accompagne. Nous ferons un premier point sur les prévisions SNCF et RATP dans un instant.
RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL Midi, un jour chez vous en France.
Coup d'envoi des championnats du monde de ski. Pour la 4e fois de son histoire, la France est organisatrice. Ça se passe dans les stations de Courchevel et Méribel. À midi 20, RTL Midi Votre Vie, quand envahisseur rime avec rongeur. Les dératiseurs sont débordés par la demande, plus 35% d'intervention en un an. Nous reviendrons sur ce chiffre qu'RTL vous dévoile avec notre invité, un professionnel de la dératisation. Enfin, juste avant 13h, LVT Midi, avec le retour de Jean-Marie Gustave Le Clésio, le prix Nobel de littérature, signe un recueil de 8 nouvelles à rencontre signée Bernard Lehu.
Autant de sujets, évidemment, dont vous pourrez débattre à partir de 13h avec les auditeurs. J'ajoute la journée mondiale sans portable. Pourriez-vous vous passer de votre portable toute une journée, Agnès?
Non.
Bon, moi non plus.
Voilà, autant de sujets, effectivement, à débattre. Mais avant cela, la météo, Louis Baudin, bonjour.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
En un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi?
Eh bien, du froid, mais du soleil. On ne peut pas tout avoir, mais le soleil quand même, ça va faire du bien.
Merci beaucoup Louis, météo complète à la fin de ce journal.
RTL Midi.
On commence donc avec ce drame effroyable. La nuit dernière, dans l'Aisne, une mère et ses 7 enfants sont morts dans l'incendie de leur maison. Seul le père de famille a pu être sorti vivant des décombres. Il est grièvement brûlé. Valentin Boissé, vous êtes notre envoyé spécial à Charly-sur-Marne. D'abord, a-t-on une idée, Valentin, de ce qui a provoqué ce drame ?
Eh bien, pour le moment, ce qui est sûr, c'est que l'incendie s'est déclaré au rez-de-chaussée de la maison vers 2h du matin. Les voisins ont tout de suite donné l'alerte et au même moment, le sèche-linge se serait embrasé, possiblement lorsqu'il était en route. La famille, elle, dormait au premier étage et a donc été piégée par les fumées toxiques. Et Christophe, un voisin et ami d'enfance du père de famille, était réveillé au moment du drame.
Sa machine, son sèche-linge, il a brûlé et ça... Ça envoyait de la fumée toxique et après, ses enfants étaient en haut, lui il est brûlé. C'est de l'injustice parce qu'il y avait les détecteurs, tout ça, tu peux pas savoir. Là, pour l'instant, là, je suis un petit peu je suis retourné, quoi.
Alors, devant la maison, le sol est encore détrempé de l'eau qui a servi à éteindre l'incendie. Les gendarmes explorent les décombres tout autour. L'émotion est palpable, car les 7 enfants âgés de 2 à 14 ans étaient scolarisés dans la commune. Certains jouaient au football dans les clubs du coin. Le père est, lui, un employé viticole. Seul rescapé, il est actuellement à l'hôpital, gravement brûlé.
Valentin Boissé, notre envoyé spécial à Charly-sur-Marne, dans l'Aisne. L'actualité ne nous épargne pas de tristes coïncidences. Cet après-midi s'ouvre devant les assises de Paris le procès d'une femme qui a reconnu avoir déclenché l'incendie d'un immeuble dans le 16e arrondissement de la capitale. C'était il y a 4 ans. L'incendie avait fait 10 morts et 96 blessés.
La communauté internationale s'organise après le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie ce matin.
7,8 sur l'échelle de Richter. Les dégâts sont tels, Brice Dugénie, qu'il est très, très compliqué de donner un bilan.
Oui, parce qu'il évolue de minute en minute. Le président turc Recep Tayyip Erdogan vient de s'exprimer. Et il dénombre 918 personnes décédées, mais il sait que ce n'est pour l'instant que très provisoire. Parce que la zone frappée est tellement vaste, les nombreuses villes très peuplées concernées par les destructions, Diyarbakir, Malatya, Adıyaman, Hatay, Gaziantep, sont des communes éloignées de plusieurs centaines de kilomètres. Et à chaque fois, ce sont des immeubles entiers qui se sont effondrés. Plus de 10 000 seraient tombés en Turquie cette nuit. La pire situation possible selon Patrick Coulombel, fondateur de l'ONG, architecte de l'urgence.
On est dans le scénario du pire, clairement. En pleine nuit, au milieu de la nuit, un tremblement de terre extrêmement puissant comme celui qu'il y a eu. Évidemment, les gens sont endormis, donc les gens sont le temps qu'ils comprennent ce qui se passe, qu'ils intègrent et puis qu'ils puissent sortir. Généralement, c'est parfois trop tard, quoi. On peut s'attendre à des milliers de morts, donc j'espère que ça dépassera pas les milliers de morts et qu'on ne sera pas au-dessus, quoi.
Pour rappel, le dernier tremblement de terre d'ampleur en Turquie, c'était en 1999, il avait fait près de 20 000 morts.
Alors là, vous nous avez effectivement parlé de la Turquie, Brice. En Syrie, le bilan s'annonce également catastrophique et là, on parle d'un pays en guerre.
Oui, de l'autre côté de la frontière en Syrie, l'accès est très difficile. Les premiers bilans font état de 400 décès. Les casques blancs, vous savez, ce sont ces secouristes qui allaient chercher dans les décombres des villes bombardées d'éventuels survivants, demandent l'aide de la communauté internationale pour arrêter les combats et les bombardements dans les zones touchées par le tremblement de terre.
Merci beaucoup pour ces premières informations, Brice Dugénie du service étranger de RTL.
Retour en France, alors que la réforme des retraites arrive à l'Assemblée nationale dans l'hémicycle. Cette fois, une troisième journée de mobilisation est prévue demain.
Et comme toujours, RTL vous accompagnera, que vous soyez contre cette réforme ou ne serait-ce que concerné par les perturbations, justement. Bonjour Arnaud Touche.
Bonjour.
Première prévision pour ce mardi 7 février, un très léger mieux sur les rails ?
Très léger, oui. Un TGV sur deux en moyenne, c'était 1 sur 3 la semaine dernière. Les TER, 3 sur 10 à peine, c'était 2 sur 10 la fois dernière. Pour les RER A et B, c'était 1 sur 3, désormais c'est 1 train sur 2. Pour le C, 1 train sur 3 désormais, alors que c'était 1 train sur 10 le 31 janvier. À la RATP, très léger mieux également et au global. Mais ça restera tout de même très perturbé. Perturbé également à Lille, Lyon ou encore Marseille. Et dans les airs, la mobilisation reste la même. Un vol sur cinq annulé à Orly, mais les vols moyens et long courriers restent épargnés.
Pardon, excusez-moi Pascal, allez-y.
Et le secteur de l'énergie, souvent mobilisé, continue de l'être.
Oui, la mobilisation continue dans les centrales et les barrages avec des baisses de production à attendre, mais toujours sans conséquences pour les particuliers. En revanche, pas d'arrêt de la production dans les raffineries, simplement des baisses de débit.
Et dans l'éducation nationale, Arnaud, le mouvement s'annonce suivi ou pas ?
Alors nous aurons les premières estimations de mobilisation cet après-midi, mais les principaux syndicats appellent à la grève dans les écoles, les collèges ou encore les lycées. D'ailleurs, des blocus de lycées ou d'universités sont attendus dès demain matin.
Merci beaucoup pour ces prévisions, Arnaud Touche.
Aujourd'hui, cela fait 25 ans que le préfet Claude Irignac a été assassiné en Corse.
Et pour cette commémoration, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est à Ajaccio. Déjeuner en ce moment même avec une trentaine de maires. La cérémonie qui a débuté tout à l'heure par un discours durant lequel le ministre de l'Intérieur a tendu la main à ceux qui souhaitent travailler à un nouveau statut de l'île.
25 ans après la mort du préfet Irignac, il est temps d'inaugurer ensemble le début de la suite. Oui, il est temps d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la Corse, d'inscrire dans le marbre de la paix, dans l'avenir, que chacun se sente infiniment respecté. Le gouvernement de la République y est prêt. Il vous attend. Fidèle au sacrifice du préfet Irignac, une nouvelle fois, il tend la main aux innombrables Corses de bonne volonté, épris de paix et de fraternité. Il vous propose de tracer ensemble la route institutionnelle, économique, culturelle, qui permettra à la Corse d'embrasser le siècle qui vient avec l'amour et le soutien de la République. Nous devons le transformer en travaillons ensemble. Mesdames et messieurs les élus, les morts nous regardent.
Étienne Baudu qui a recueilli donc cette intervention de Gérald Darmanin. Étienne Baudu, envoyé spécial en Corse pour RTL. On passe à la météo. Louis Baudin, moins de pluie, sauf pour une fois dans l'extrême sud.
Oui, c'est vrai, on a une perturbation qui glisse là sur le littoral méditerranéen. Alors, elle est surtout en mer, mais elle déborde un peu. Ce matin, elle a apporté quelques nuages sur le sud du Var. Et en ce moment, ça se passe sur les Pyrénées-Orientales et la Corse, qui reste sous la menace donc de passages nuageux, d'averses sous forme de pluie ou de neige dès 500 ou 600 mètres sur les Pyrénées-Orientales. Dans toutes les autres régions, c'est le retour d'un temps sec avec de belles éclaircies, même parfois du ciel tout bleu. C'est le cas près de l'Atlantique. Alors, il faudra patienter un peu dans le massif centrale ou encore dans le nord-est où les nuages sont nombreux, mais là aussi, petit à petit ça devrait s'éclaircir, les températures eh bien nous revenons petit à petit en dessous des moyennes de saison.
Eh oui, il faisait plus frais ce matin.
Ah ben nettement.
Il faisait 4 degrés dans Paris.
Voilà, oui, et même moins en banlieue, on frôlait les gelées et cet après-midi nous serons entre 4 et 6, 7 degrés dans la moitié nord, donc on revient, on repasse en dessous des moyennes de saison, entre 7 et 11 degrés dans le sud, 13 degrés même à Ajaccio.
Merci beaucoup Louis Bonin.
RTL Midi, un jour chez vous en France, chaque jour l'info plus près de vous et là nous allons partir pour la Savoie.
Exactement, dans un instant.
À tout
Pascal
suite.
Pro, Agnès Bonfillon.
RTL Midi jusqu'à... RTL Midi,
un jour chez vous.
Et nous partons donc pour la Savoie.
Exactement, les championnats du monde de ski viennent tout juste de commencer avec l'épreuve du combiné dames, s'il vous plaît. Bonjour Serge Puyot.
Bonjour.
Pendant 15 jours, cela va être la fête du ski dans les stations donc de Courchevel et Méribel.
Oui, vous entendez le bruit des skis là déjà qui descendent. On attend près de 150 000 spectateurs sur la quinzaine et pour la première fois lors des mondiaux de ski, les compétitions se dérouleront sur deux sites. Courchevel pour les hommes et Méribel pour les femmes, deux stations prestigieuses du domaine des Trois-Vallées, à distance de 10 km, l'ancienne championne Perrine Pellen est la directrice générale de cet événement.
Ce n'est que la quatrième fois que ces championnats du monde sont organisés en France, hein, après Chamonix en 37-62 et Val d'Isère, c'était il y a 14 ans, en 2009. C'est l'événement le plus important pour les sports d'hiver. Après les Jeux Olympiques, ce sont pas moins de 75 nations qui vont être présentes pendant 15 jours. On a été qualifié par l'État grand événement sportif international. Il en va de l'image de la France. On veut que ce soit une grande fête populaire. Tout doit être fait pour que ce soit un rendez-vous mémorable à la fois pour les athlètes qui vont participer et puis à la fois pour le public qui sera présent.
Et quel plaisir, Serge, d'entendre la voix de Perrine Pellen, qui fut une grande championne dans les années 70-80. On peut donc s'attendre à du grand spectacle durant deux semaines sur les pistes savoyardes.
Oui, c'est l'avis de Carole Montillet, championne olympique de descente en 2002, qui se souvient des derniers championnats du monde qui se sont déroulés en France.
Je me rappelle de Val d'Isère 2009, hein, c'était juste génial. On a croisé pendant 15 jours le public qui avait la banane parce qu'ils avaient accès à des courses de très très haut niveau. Là, on sait que ce sera exactement la même chose parce que les sites proposés, ils sont juste dingues. Courchevel, c'est quand même juste la classe. Et Méribel, pareil quoi. C'est magique, voilà. Et ce sera pendant les vacances scolaires. Et on dit justement aux gens, venez. Venez skier et puis vous venez jeter un petit coup d'œil sur les courses parce que le ski alpin maintenant c'est vraiment du très très haut niveau quoi.
Et bien sûr les skieurs et skieuses de l'équipe de France vont avoir la chance de courir à domicile Serge.
Oui, la géantiste Tessa Worley, une de nos chances de médaille, savoure déjà son bonheur.
Heureuse d'être ici à Méribel et c'est super excitant. Nous les coureurs, on va être les acteurs et donc ça c'est génial. Enfin, moi je suis juste très heureuse et honorée de pouvoir participer à ces championnats du monde. C'est un grand moment, je pense que c'est un moment assez privilégié de pouvoir le vivre à la maison. Déjà des championnats du monde, c'est énorme. Donc je réalise vraiment la chance que j'ai de pouvoir vivre à la maison ce type de moment sportif. Et puis ben, j'ai juste envie d'en profiter à fond et de m'exprimer pleinement.
Voilà, il ne reste plus qu'à croiser les doigts, et pas les skis, hein, en espérant des médailles françaises.
Surtout pas les skis, jamais croiser les skis. Merci beaucoup Serge Puyot pour ces championnats du monde donc de ski qui viennent tout juste de débuter dans les stations de Courchevel et Méribel. Dans un instant, Pascal, nous nous penchons sur l'interdiction du porno pour les mineurs, en tout cas mettre davantage de verrous, d'efficacité surtout, pour que ces verrous fonctionnent.
RTL Midi. Pascal Praud et Agnès Bonfillon.
Vers l'interdiction du porno pour les mineurs. En ce début de semaine, le gouvernement doit annoncer un dispositif afin d'empêcher les moins de 18 ans d'accéder à ces contenus sur Internet. Cela devrait rentrer en vigueur en septembre prochain. Pour en parler avec nous dans ce studio, Thomas Romer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. On a envie de dire enfin, enfin, des verrous plus efficaces.
Je vous rejoins. Mais pour l'instant, ça reste une déclaration d'intention. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on attend de voir un peu, étant donné qu'on n'était pas vraiment prévenu, de voir en quoi vont consister ces dispositifs, au regard de ce qui existe déjà, au final, et pourquoi aussi, peut-être, on a attendu autant de temps. Je vous rejoins.
Et comment peut-on bloquer plus efficacement, justement, ces contenus, les moyens à notre disposition?
Aujourd'hui, il existe au niveau mondial pas mal de dispositifs qui sont utilisés ici et là pour contrôler l'âge, puisqu'en fin de compte, c'est le principe, c'est de bloquer, de pouvoir s'assurer que les personnes qui vont sur ces sites sont bien majeures. Donc il y a des sociétés qui sont positionnées sur ces sujets-là depuis déjà pas mal d'années. C'est pareil, Madame Cobel avait évoqué à un moment la mise en place de la carte bleue, en attendant qu'on trouve un dispositif. Et c'est vrai que là, on a appris qu'il y avait des choses qui allaient être annoncées. Donc, on est un peu aussi dans...
Moi, j'ai l'impression que c'est un combat vain. Je vois pas comment, hélas. Alors, c'est aux parents, évidemment, d'abord d'éduquer leurs enfants, de faire très attention à ce qu'ils regardent. Mais comment, aujourd'hui, dans cet espace numérique, vous pouvez empêcher des enfants de tomber sur des films porno?
Bah, je suis bien d'accord.
Sauf à prendre des solutions radicales, vous voyez, c'est-à-dire à les interdire d'avoir accès à l'ordinateur.
Non, enfin, aujourd'hui, je vous rejoins. Il y a évidemment une nécessité que les parents s'emparent de ces sujets le plus tôt possible, parce que, en effet, en l'état actuel des choses, c'est quasiment impossible qu'un enfant échappe à ce piège. Après ça, il y a deux types de populations. Il y a les tout-petits, évidemment, qui souvent peuvent tomber malencontreusement sans l'avoir cherché, et pour lesquels on sait que ça occasionne souvent vraiment un traumatisme important. Et puis il y a les adolescents. Tous les ados du monde sont toujours allés chercher ce type d'image, et c'est au cœur du processus adolescent. Donc l'idée n'est pas de vouloir empêcher ça, mais juste de peut-être organiser aussi un contre-discours. Et là, on en revient toujours à cette fameuse éducation sexuelle qui est inexistante dans notre pays, ou en tout cas qui n'est pas suffisamment déployée.
Oui, mais alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est quoi éduquer sexuellement les enfants?
Éduquer sexuellement les enfants, en tout cas les adolescents, c'est commencer à parler d'autre chose que d'éviter d'avoir des bébés, d'éviter d'avoir des maladies sexuellement transmissibles, et parler de plaisir, de son corps, du corps de l'autre, du consentement. Quand même un sujet important.
Mais là, c'est les parents, c'est l'éducation.
Oui, mais aujourd'hui, depuis la loi de 2001, c'est inscrit dans le code de l'éducation, et normalement, les enfants, depuis le primaire jusqu'au lycée, sont censés avoir 3 séances sur ces sujets, et elles ne sont pas effectives.
Vous nous parliez du traumatisme que cela peut causer sur les tout-petits. Est-ce que, pour les adolescents, cela peut avoir une conséquence sur la vision de la sexualité?
C'est d'autant plus une conséquence qu'il n'y a pas de contre-discours, en fait. C'est ça, le souci. Une fois encore, moi, j'appartiens à une génération qui est allée enregistrer la cassette VHS dans le dos de papa et maman. Mais une fois qu'on avait transpiré et qu'on avait cette cassette entre les mains, on avait franchi la ligne jaune, on était dans notre job d'ado et on avait limite pas envie de la regarder. Là, aujourd'hui, ce qui fait défaut, c'est qu'il n'y avait pas d'interdit, il n'y a pas de ligne jaune, puisque depuis que 2006, que YouPorn existe... tout le monde se contrefiche complètement que des enfants et des adolescents se construisent leur représentation de la sexualité par le biais de...
Donc là, il faudrait faire des études sur cette jeune génération pour voir les différences et comment elle s'est construite par rapport effectivement aux images pornographiques que ne voyaient pas les autres générations.
Oui, vous avez raison. Et en plus, comparé par rapport à la type de pornographie qui n'est plus du tout la même. Parce qu'aujourd'hui, la pornographie, du temps de Brigitte Lahaie, c'était quand même quelque chose d'assez soft par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui sur les sites pornographiques, où souvent les violences faites aux femmes sont au cœur d'un modèle économique. Et ce qui a aussi occasionné ce problème, ce que démontrait notamment un super documentaire d'Ovidie, Pornocratie, montrait que voilà, cette ubérisation de l'industrie du sexe avait été aussi... le piège était en fait dans le modèle économique, parce que le fait d'être basculé dans du non-payant, il y avait une surenchère à la violence des images pour générer du clic.
Merci encore Thomas Romer, c'est passionnant de vous écouter. Vous êtes directeur de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. C'est vrai que c'est aux parents, bien sûr, de faire l'éducation des enfants et de surveiller tout cela et de les avertir et d'avoir un dialogue avec eux sur l'éducation sexuelle, bien évidemment. Dans un instant, nous parlons du boom de la dératisation, de plus en plus d'interventions contre les rongeurs partout en France. Les surmulots. À tout de suite.
Jusqu'à 13h. RTL Midi. RTL Midi. Votre vie.
Le nombre d'interventions pour la lutter contre les rats a augmenté de 35% en un an, avec plus de 6,4 millions d'interventions en 2022. C'est énorme. Cela s'expliquerait par l'augmentation des déchets sur l'espace public, mais aussi le réchauffement climatique qui serait pour quelque chose, pour en parler avec nous. Ethan, habitant, bonjour.
Climatique à Bondo.
Vous êtes fondateur de l'entreprise L'Artisan du Nuisible, c'est ça?
C'est ça, dans le 12e.
Avez-vous vu vos interventions, effectivement, nettement augmenter ces derniers mois?
Alors oui, ça fait déjà une bonne année que ça a triplé de volume. Notamment cet été, là où on avait du frelon asiatique, énormément de frelons asiatiques. Et par la même occasion que aujourd'hui, bah voilà, tout ce qui va être nuisible, que ce soit du rat, de la souris, principalement. Et après, voilà, on fait aussi tout ce qui est punaise de lit.
C'est la terreur, la punaise de lit, parce que tu passes dans la rue et la punaise peut sauter sur toi, tu la ramènes chez toi et c'est fini.
Alors ça s'accroche principalement, ouais, ça s'accroche principalement vu que c'est des rampants.
Oui.
Et aujourd'hui, alors il faut savoir que dans tout ce qui est transports en commun, ça s'attrape principalement. Du fait que on s'assoit, les gens ne traitent pas chez eux forcément.
Et là, il faut tout changer l'appartement, paraît-il.
Du tout. Alors nous, on a la possibilité de proposer le traitement en triple molécule. Donc en fait, vous avez un réducteur de croissance pour tout ce qui va être des œufs. On va avoir la molécule pour abattre les bébés et la molécule pour abattre les adultes.
Alors pardon messieurs, mais on va en revenir au rat, c'est bien déjà là. Pas mal. Quels sont les signes, monsieur, pour savoir si nous avons des rongeurs chez nous, à moins de les voir évidemment, mais est-ce qu'il y a quand même quelques signes?
Oui, signes, un petit animal alors, qui passe dans l'assiette.
C'est ça. Alors on va avoir bien sûr des signes, donc c'est tout ce qui va être au niveau des murs. Donc si on entend des grattements, qu'on entend que ça couine dans une prise, ou que ça couine au niveau sous un évier.
Ça couine dans une prise, oui, parce qu'il ronge les fils.
Exactement, ça ronge tout ce qui est fil électrique, étant donné qu'aujourd'hui, le fil électrique, enfin le morceau bleu ou marron, est fait à base de résine de maïs. Et à savoir qu'aujourd'hui, tout ce qui est rongeur se nourrisse de...
Et le rat est plutôt au premier, deuxième étage où il peut se balader
Même au 20e étage.
D'accord. Alors, comment on lutte? On prend la tapette et le bout de fromage? Non.
Du tout. Alors, nous, aujourd'hui, on propose des traitements donc, avec des boîtes domestiques. Donc, c'est des boîtes qui sont fermées avec une clé, de façon à ce que si demain, vous ayez un animal domestique ou un enfant en bas âge, qui ne puissent pas ouvrir cette boîte. Et à l'intérieur, on va mettre des appâts donc surpuissants qui sont utilisés uniquement par des professionnels. Donc on est formé sur chaque produit tous les 2 à 3 mois, sur lesquels en fait ça va tuer donc la bête sous 72 heures à 96 heures, selon l'épaisseur de la bête. Après, il y a plusieurs traitements qui existent, notamment quand c'est dans un mur. Alors soit...
Donc ça, cette boîte, elle est placée où ?
Elle est placée le long du mur.
D'accord.
Donc sur l'appât, on rajoute un spray caramel qui va attirer, etc.
Et qu'est-ce qui fait que le chien, par exemple, n'accroche pas à cette boîte ?
Alors, parce que c'est des boîtes qui sont vraiment bien scellées.
Le rat, comment il fait le rat ?
Vous avez 2 entrées sur le côté.
Oui.
Donc vous avez une entrée, une sortie.
Et la boîte.
Au milieu de la boîte, vous allez avoir l'appât.
D'accord.
Et c'est à ce moment-là qu'il va venir se nourrir et ressortir.
D'accord.
Est-ce qu'il y a des conseils basiques à donner pour éviter les rongeurs à la maison, évidemment ? J'imagine que l'hygiène est quand même très importante.
Déjà, il faut sortir ses poubelles. Ne jamais laisser les poubelles devant la porte ou devant l'entrée. Qu'on les mette dans une poubelle donc bien fermée et pas à côté de la poubelle comme on retrouve très souvent le cas. Et par la même occasion, faire un coup de ménage assez récurrent et voilà quoi.
Ouais. La propreté, ça leur plaît pas trop.
C'est exactement ça. Ça veut dire qu'après, plus ça va être propre, moins ça va...
Préventivement, vous l'avez dit. Donc vous avez modifié vous-même vos méthodes ?
Oui, ça a été changé plusieurs fois. Donc après, ça dépend. Vous avez la ville de Paris aujourd'hui qui a un budget quand même qui est énorme, mais qui ne subvient pas assez aux besoins de tout ce qui est dératisation. Et par la même occasion, aujourd'hui, nous, on va pouvoir, vu le passé qu'on a dans notre société, on va pouvoir approvisionner et mettre en place plusieurs méthodes de façon à ce qu'on puisse éradiquer ça.
Eh bien, monsieur, merci, monsieur Habitant. On rappelle votre entreprise ?
L'Artisan du Nuisible.
L'Artisan du Nuisible, effectivement.
Il y aura les punaises de lit.
Tout ce qui est nuisible. On traite vraiment tout.
Exactement. J'ai quelques idées pour vous. Il est 12h28 et on va marquer une pause. Et on revient évidemment avec l'info qui revient. C'est lundi aujourd'hui. À tout de suite.
RTL Midi. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL Midi, il est 12h30.
RTL Midi, le 12-30, Pascal Pro et Agnès Bonfillon.
On est en train de poursuivre la discussion avec Monsieur Habitant, et c'était passionnant, son métier de dératisation. Il est donc 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée, Agnès.
Nous allons revenir évidemment sur cet effroyable drame à Charly-sur-Marne, dans l'Aisne. Cette famille décimée la nuit dernière dans l'incendie de sa maison. Sept enfants et leur mère sont morts asphyxiés. Dans l'actualité également, lourde actualité, hein, ce lundi. Des milliers de morts, au moins. Le bilan du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie ne cesse de s'alourdir. La communauté internationale s'organise pour envoyer de l'aide d'urgence. À la veille de la troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, inquiétude concernant les premiers départs en vacances. Faut-il interdire les grèves pendant les congés? L'Italie le fait, mais est-ce applicable en France? Retraite, justement, c'est en urgence qui tombe à l'instant. Les syndicats de la SNCF n'appellent pas à la grève samedi, c'est-à-dire n'appellent pas à la grève pendant ces congés. Vous voyez, on est vraiment dans l'actualité. Les syndicats de la SNCF appellent simplement à manifester. Nous allons y revenir évidemment dans quelques instants. La question du jour sur RTL.fr, je vous la rappelle, journée mondiale sans portable. Pourriez-vous vous passer de votre téléphone une journée?
On parlera évidemment de tous ces sujets à partir de 13h. J'ajoutais également nos adolescents, enfants, sont-ils insuffisamment protégés contre la pornographie? On en a parlé dans la première partie de cette édition.
La météo à la fin de ce journal. Un petit indice, Louis Baudin?
Oui, on va avoir plus de soleil, ça va faire du bien, mais il fera un peu plus froid également dans la plupart des régions.
RTL Midi. Pascal Pro, Agnès Bonfillon.
La mort d'une mère de famille et ses sept enfants la nuit dernière dans l'incendie de leur maison. Sept enfants âgés de 2 à 14 ans. Le drame s'est déroulé dans l'Aisne, à Charly-sur-Marne. Les victimes ont été asphyxiées par les fumées, tandis que le père, également présent, a été grièvement brûlé. Il a été hospitalisé. Écoutez Rémi, il est l'entraîneur de l'Union Sud-Aisne, le club de foot où était licenciée l'une des fillettes décédées. Il connaissait très très bien la famille.
Papa qui s'appelait Nicolas, nous on le surnommait Nico, un papa qu'on connaissait, enfin qu'on voyait tous les jours, s'en sortir pour avoir ces nouvelles-là derrière tout ça. Surtout c'est des gens, il n'y avait rien à dire, c'était une famille adorable, des enfants très polis. Une des petites, Shana, qui était licenciée du club de foot de l'Union Sud-Aisne. Donc pour tous ses camarades, tout ça c'est assez compliqué. Le plus petit des enfants, un ami à mon fils, pareil également, compliqué. Ça serait dû à un problème de sèche-linge. On se dit que c'est vraiment un problème qui peut survenir à n'importe quel moment, quoi. C'est vraiment triste. Les gens, on les connaît personnellement, ça touche. On essaye de cacher ses émotions quand même, mais c'est compliqué quand même.
C'est vous, Valentin Boisset, qui avez recueilli ce témoignage. C'est tellement effrayant. Sept enfants et ce père qui va rester aujourd'hui seul, sans son épouse, sans ses sept enfants. On l'entend, c'est tout un village qui est sous le choc.
Absolument, il y a énormément d'émotions, hein, car les sept enfants sont tous scolarisés dans la commune. Quelques-uns de leurs camarades sont d'ailleurs venus se recueillir tôt ce matin en larmes avant d'aller en cours devant le panneau rue Barré. Certains des enfants, comme la petite Shana, que vous venez d'entendre, son professeur de football, étaient engagés dans des activités périscolaires. Le père, employé viticole sur la commune, rend régulièrement des services à certains de ses voisins. Et surtout, ce qui choque, eh bien, c'est la rapidité des événements. 2h du matin, début de l'incendie, fin de nuit. On apprend donc les 8 décès. Ce voisin habite, lui, juste en face de la maison.
Je suis bouleversé, là. C'est à 2h30 quand j'ai vu qu'il n'y avait pas d'électricité sur moi et j'entendais courir de tous les côtés. J'ai ouvert ma porte et j'ai vu les pompiers et la police. Regardez comment je parle, j'en peux plus. Cet enfant décédé, c'est catastrophique.
La gendarmerie poursuit actuellement l'enquête juste devant moi. Ils explorent les décombres de la maison. Il faut maintenant tenter d'établir avec certitude que c'est bien ce sèche-linge qui est à l'origine de l'incendie.
Valentin Boisset, l'envoyé spécial de RTL dans l'Aisne à Charly-sur-Marne. Et terrible hasard de calendrier, hein, cet après-midi s'ouvre le procès d'une femme devant les assises de Paris. Elle a reconnu avoir déclenché l'incendie d'un immeuble il y a 4 ans dans le 16e arrondissement de la capitale. Incendie qui avait fait 10 morts et 96 blessés.
L'épicentre est en Turquie, mais le séisme qui a eu lieu il y a quelques heures a fait également de très nombreuses victimes en Syrie.
Oui, on le disait, hein, le bilan s'alourdit d'heure en heure, voire de minute en minute. On parle désormais de milliers de morts avec une communauté internationale qui s'organise, Brice Duvani.
Oui, le président turc Recep Tayyip Erdogan a pris la parole il y a une heure. Il a annoncé que 45 pays ont déjà proposé leur aide pour les secours, dont la France. Le président Macron a dit qu'il se tenait à la disposition de la Turquie. La Commission européenne a annoncé que des secouristes roumains et néerlandais étaient déjà en route. Et puis les Espagnols, les Polonais, les Hongrois, les Bulgares, les Russes ont proposé leur service à Ankara. Il faut désormais coordonner tout cela. Sur le terrain, les secours tentent de parer au plus pressé. On voit sur les chaînes de télévision turques des images d'habitants et de secouristes sortir des corps des décombres. Et les conditions météo, le froid, la neige rendent les opérations plus difficiles et donc les chances de survie pour les personnes bloquées plus minces. Patrick Coulombel est fondateur de l'ONG Architecte de l'Urgence.
Comme il fait froid, si vous êtes immobilisé pendant longtemps, vous tombez en hypothermie. Quand vous êtes dans une position qui n'est pas forcément bonne, vous êtes coincé et qu'il fait des températures qui sont relativement froides, la survie peut être directement impactée, quoi. Et puis alors, sur les personnes qui vont intervenir dans les secours, ben c'est aussi pénalisant. On est moins productif, on est moins rapide, on est moins efficace lorsqu'il fait froid.
Et la logistique est également plus difficile puisque la neige rend les accès aux aéroports difficiles pour les avions de secours. L'ampleur du travail est immense. Le président Erdogan a annoncé que ce sont près de 3000 immeubles qui se sont totalement effondrés cette nuit. Le bilan parle d'un millier de morts pour l'instant, mais il va considérablement s'alourdir.
Brice Duvani du service étranger de RTL.
La réforme des retraites en débat dans l'hémicycle à partir d'aujourd'hui. Cela s'annonce agité.
L'exécutif dénonce une obstruction bête et méchante avec 20 000 amendements déposés. Le gouvernement comptait sur la droite après les dernières concessions d'Elisabeth Borne sur les carrières longues. On pensait effectivement que les Républicains seraient satisfaits, prêts à massivement voter le texte. Eh bien, ce n'est absolument pas le cas, Marie Mollet. Certains députés LR refusent toujours de voter ce texte en l'état. On a du mal à comprendre, hein, Marie, expliquez-nous.
Oui, on va essayer d'y voir un tout petit peu plus clair. D'un côté, vous avez Éric Ciotti, le patron des Républicains, fraîchement élu. C'est lui qui négocie directement avec Matignon depuis janvier. Et sa ligne, c'est de dire « maintenant, on vote ce texte ». L'équilibre budgétaire fait partie de l'ADN de la droite. Nous défendions la retraite à 65 ans pendant la présidentielle. Soyons cohérents, votons ce texte. Mais face à lui, il y a Aurélien Pradier, député du Lot, candidat malheureux à la présidence des Républicains au caractère rebelle, lui demande encore plus à l'exécutif sur les carrières longues et menace de voter contre. Alors pourquoi ce jusqu'au boutisme ? D'abord parce que cela lui permet d'apparaître comme le chantre de la droite sociale, c'est son créneau depuis des années. Et puis ainsi, il défie l'autorité d'Éric Ciotti et fait entendre sa petite musique. La grande question, c'est de savoir combien de députés LR pourraient suivre Aurélien Pradier. Si une vingtaine d'élus votent contre, la réforme pourrait être rejetée. Alors pour tenter d'étouffer la crise, Éric Ciotti a convoqué en urgence tous les députés LR pour une réunion ce soir avec explication de gravure au menu.
On y voit un peu plus clair. Merci Marie Mollet du service politique de RTL. Pour la troisième journée de grève contre la réforme des retraites demain, les transports en commun seront une nouvelle fois très perturbés. Un train sur deux en moyenne pour les TGV Inouï et Ouigo. 3 TER sur 10 selon la SNCF. Du côté des Transiliens, 2 trains sur 3 prévus. Et puis les lignes de métro seront à nouveau, elles aussi, très touchées par le mouvement. On vous l'annonçait en titre, hein, c'est une information qui est tombée il y a quelques instants. Les syndicats de la SNCF n'appellent pas à la grève samedi, c'est-à-dire que les départs en congé ne devraient pas être perturbés. La SNCF appelle à manifester, mais donc refuse de faire grève.
Victime de tir de Kalachnikov, il s'en sort et c'est un miracle. Vous avez peut-être entendu son témoignage depuis ce matin sur l'antenne d'RTL.
Témoignage exceptionnel effectivement d'un chauffeur de VTC à Marseille. Il venait de déposer son client dans les quartiers nord le 11 janvier dernier quand sa voiture a été la cible de 22 balles de Kalachnikov. Hamza, 27 ans, a accepté d'en parler sur RTL.
J'étais dans ma voiture, d'un seul coup je vois une voiture qui débarque au quartier. Et d'un seul coup, je vois un mec qui descend de la voiture avec une Kalachnikov. Il commence à me parler, il me dit « Ouais, il y a qui derrière ?» Je dis « Il n'y a personne. » Et lui, il ne me croit pas. Il me dit « Ok, tu vas voir. » Et le temps que je demande à la voiture, je prends la fuite, ça y est, il commence à tirer. J'ai eu 2 balles dans mon corps, une qui a touché mon dos et une qui a touché mon épaule. Ils ont trouvé 22 balles dans ma voiture. La seule solution, c'était de sauter de la voiture. Parce que si je restais dans la voiture, le mec, il va venir, il va me tuer direct. Et en courant, je me suis réfugié dans un snack. Heureusement, la police était, voilà, ils sont venus vite. Quand par hasard, je tombe sur un policier, apparemment, c'est un ancien pompier. C'est lui qui m'a sauvé la vie. Moi, je suis juste un simple chauffeur VTC. J'étais victime d'une fusillade. Pour l'instant, je suis dans un lit, j'arrive pas à bouger. Je sens que ma ville est détruite, quoi. C'est trop dur.
Document RTL signé Hugo Hamelin. Photos et témoignages à retrouver sur notre site RTL et notre application, bien sûr. 8 jours après la disparition d'Elena à Brest, c'est la piste d'un accident de voiture qui se dessine. Un homme de 36 ans qui a tenté depuis de mettre fin à ses jours a confié à son frère avoir fait une connerie. Il aurait renversé les lames infirmières de 21 ans avant de dissimuler son corps. Il est actuellement hospitalisé dans un état grave.
L'alliance Renault-Nissan se redonne une chance et pour cela, les deux constructeurs repartent sur de nouvelles bases.
Oui, ils m'ont dévoilé tout à l'heure à Londres un accord les mettant désormais sur un pied d'égalité. L'occasion également pour le français et le japonais de dévoiler les prochains objectifs. Christophe Bourreau.
Oui, Renault et Nissan ont décidé de mettre le pied sur l'accélérateur, d'abord en produisant des voitures pas chères, sur le modèle de Dacia via une plateforme commune. Et l'idée est ainsi de partir à la conquête des marchés en voie de développement, comme en Afrique ou encore en Amérique latine. Les deux constructeurs prévoient aussi d'investir massivement en Inde, l'un des marchés automobiles qui a la plus forte croissance au monde. Et en ce qui concerne les modèles pour l'Europe, là encore, une plateforme commune va être lancée pour produire notamment la prochaine Mégane électrique en 2028. Autre projet d'envergure, la fabrication commune de véhicules utilitaires et plusieurs voitures seront bien assemblées sur le vieux continent. Ainsi, la remplaçante de la Nissan Micra sera, elle, assemblée dans le nord à Douai. Enfin, Nissan devrait investir des millions d'euros dans Ampère. Ampère, la nouvelle unité de Renault qui réunit les activités électriques de la marque aux losanges.
Christophe Bourreau qui sera aux côtés de Julien Cellier dans RTL Soir tout à l'heure pour un entretien exceptionnel avec Jean-Dominique Sénard, le PDG du groupe Renault. Et puis Pascal, vous allez adorer, elle est désormais l'artiste la plus couronnée de tous les temps. De tous les temps, 4 nouvelles récompenses cette nuit aux Grammy Awards pour Beyoncé.
Qui sera notre invité dans les auditeurs ont la parole bien.
Ça fait, ça fait pas mal de rêver. Queen Bee.
Vous parlez Queen Bee.
Queen Bee et Louis Bee également. Ah ben, c'est autre chose.
Ah non, c'est mieux.
Ah merci. Je sais pas, c'est mieux.
Il danse aussi bien en tout cas. On vient de le voir. Louis, le froid revient, d'accord, mais on va regarder un petit peu le verre à moitié plein, du soleil quand même.
Eh oui, exactement, notamment dans la moitié nord. On l'a attendu, ce soleil qui est en train de revenir. Là, je vois sur les images satellites. Alors, c'est un peu plus long dans le nord-est, Lorraine, Alsace, où on a encore des passages nuageux. Même chose dans le massif central ou encore du côté des Alpes, encore quelques passages nuageux. Mais globalement, quand même, le soleil est en train de revenir. Et au cours de l'après-midi, c'est bien lui qui devrait s'imposer quasiment partout. Il restera un peu d'instabilité dans le sud, là, tout près de la Méditerranée, avec quelques débordements nuageux sur la Corse, peut-être également sur les Pyrénées-Orientales, avec quelques averses sous forme de pluie ou de neige à très basse altitude. Le vent d'est soufflera fort sur ce littoral méditerranéen. Vent d'est, hein, ce n'est plus Mistral et la Tramontane, jusqu'à 90 km/h. Et puis les températures, ben, on s'en aperçoit, hein, elles sont en train de baisser. Nous serons entre 4 et 6, 7 degrés dans la moitié nord cet après-midi. Donc on repasse en dessous des moyennes de saison, 8 à 11 degrés dans le sud et 13 degrés même à Ajaccio.
Merci beaucoup Louis.
Faut-il interdire les grèves des transports pendant les congés? Voilà une bonne question. L'Italie le fait, on en parle dans une seconde.
Jusqu'à 13h. Agnès Bonfillon, Pascal Pro, RTL Midi.
C'est un article qui dit qu'on ne peut pas faire grève pendant les jours fériés, pendant les vacances scolaires, notamment la veille des vacances scolaires tout particulièrement. Vous savez, quand on commence à préparer ses vacances pour partir. C'est du bon sens, hein, mais je pense qu'il faut surtout laisser les Français circuler sans contrainte et qu'on arrête toujours de nous embêter, hein, tout simplement.
Cette voix, c'est celle de Véronique Besse, députée divers droite non inscrite de Vendée, qui propose donc d'interdire de grève les jours de vacances scolaires. Alors, une telle proposition peut-elle être réaliste, surtout chez nous? Pour en parler en studio, Nerissa Emani. Bonjour Nerissa.
Bonjour.
Et notre correspondant en Italie, Olivier Bonnel. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Olivier, en Italie, donc, le droit de grève est limité.
Eh bien, les Italiens ont un rapport très différent à la grève que les Français. Impossible de débrayer, par exemple, lors des grandes fêtes comme à Noël ou à Pâques, mais aussi de bloquer le pays lors des départs en vacances. C'est le cas notamment à la mi-août, quand toute l'Italie, ou presque, part à la plage. La loi sur le droit de grève, ici en Italie, date de 1990 et veut concilier le droit syndical de protester à la mobilité des usagers de transport. Les mouvements sociaux, ici, sont contrôlés ainsi par une commission indépendante qui est chargée de garantir, en cas de conflit social, un service minimum.
Et cette disposition n'a pas provoqué de contestation ?
Pas vraiment, car en vertu de cet équilibre, la vie quotidienne des Italiens reste peu entravée et il existe toujours des solutions alternatives. Et si par exemple un train est annulé pour effectuer un trajet Rome-Turin, alors le personnel aérien, lui, ne peut pas se mettre en grève et doit proposer des vols pour assurer le trajet.
Alors en France, est-ce que cela serait possible, comme semble le dire la députée Valérie Besse? On se tourne vers vous, Nerissa Emani. Le modèle transalpin ne serait pas constitutionnel, on est d'accord chez nous?
Oui, en France, ce n'est pas possible, parce que le droit de grève, il est protégé, il est mentionné dans le préambule de la Constitution. Ce que peut faire le législateur, c'est limiter le droit de grève. Ça, c'est possible, à condition que ce ne soit pas disproportionné et que ça ne porte pas atteinte au fondement du droit de grève.
Mais justement, interdire pendant les vacances scolaires, est-ce disproportionné ?
Mais oui, pour plusieurs constitutionnalistes. Il y a plusieurs difficultés. Déjà, les vacances scolaires ne sont pas les mêmes pour tout le monde en fonction des zones. Et ça fait presque 20 semaines plus 11 jours fériés. Donc, ce serait interdire de faire grève la moitié de l'année. Donc, ça paraît disproportionné. Ce serait une entrave trop importante au droit de grève. Ensuite, en France, on a droit à des congés payés, mais pas des congés scolaires. Les vacances, ça ne parle pas à tout le monde, ceux qui n'ont pas d'enfants, par exemple. Donc, ça créerait une injustice d'interdire de faire grève pendant ces périodes-là. En fait, il faut trouver des dates qui ont du sens pour tout le monde. Interdire la grève sur des jours fériés, qui sont parfois des jours de célébration religieuse, comme le 25 décembre, c'est compliqué parce que tout le monde n'a pas la même religion. Donc ce serait plus difficile à faire accepter.
Mais alors, du coup, imposer un service minimum, ça c'est compatible avec notre Constitution ?
Oui, c'est compatible, ça existe pour certains secteurs jugés essentiels, comme les hôpitaux par exemple. Dans les transports, il n'y a pas de service minimum en tant que tel, mais depuis 2007, une loi prévoit la continuité du service public dans les trains, les métros et les bus. Les salariés qui veulent faire grève doivent prévenir et déposer un préavis 48 heures avant, donc pas de surprise possible le jour J. C'est une forme de limitation du droit de grève pour les syndicats, mais ça permet à l'entreprise de préparer un plan de transport et donc de prévenir les usagers 24 heures avant la grève. En cas de grève, la RATP et la SNCF font donc appel à des salariés non grévistes pour assurer la continuité du service, mais dans tous les cas, on ne peut pas contraindre un salarié, un agent à travailler un jour de grève.
Les policiers n'ont pas le droit de faire grève, les militaires non plus, donc on pourrait imaginer pourquoi pas que le personnel de la SNCF n'ait pas le droit de faire grève. Mais je ne suis pas sûr que ce serait très populaire.
Il y a eu plusieurs propositions de loi ces dernières années, mais aucune n'est passée. En tout cas,
on rappelle cette information, Pascal, les syndicats de la SNCF, justement, qui n'appellent pas à la grève samedi, quatrième journée de mobilisation, en plein cœur des vacances d'hiver. Les syndicats n'appellent pas à la grève, mais enjoignent les cheminots à participer aux manifestations.
Il nous parle parfois de Guillaume Musso, et là, il va nous parler de Jean-Marie Gustave Leclésio. C'est le grand écart, forcément, mais c'est les livres et c'est la littérature. Et Bernard Lehu est là, il fait le geste d'ailleurs du grand écart, il n'est pas allé jusqu'au bout du geste, mais il revient avec un recueil de nouvelles. Je parle de Leclésio, à tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Agnès Bonfillon. RTL. Laissez-vous tenter, midi.
La culture se met donc à table tous les jours dans RTL et ce lundi, une rencontre avec un personnage mythique, un écrivain mythique, prix Nobel de littérature, Jean-Marie Gustave Leclésio.
Qui s'est confié à votre micro, Bernard Lehu. Bonjour à vous.
Bonjour, bonjour Agnès, bonjour Pascal.
Leclésio publie un recueil de 8 nouvelles qui a pour titre Avers.
Avers, ben oui, le contraire de revers, le côté face d'une médaille ou d'une pièce. Et c'est justement une face, un visage que l'écrivain redonne aux opprimés, aux marginaux, aux invisibles, celles et ceux qu'il appelle les indésirables. Alors, sans être engagé au sens politique ou partisan, l'œuvre de Leclésio a toujours été marquée d'un profond humanisme, d'une révolte face à l'injustice, et dans ce recueil, plus que jamais, pour moi, l'écriture est avant tout un moyen d'agir, de diffuser des idées, écrit-il au dos de son livre.
Oui, j'ai osé écrire ça et surtout j'ai osé accepter qu'on mette cette mention que j'avais jointe au manuscrit pour que l'éditeur soit intéressé peut-être.
Et, parce que vous doutez encore de l'intérêt de votre éditeur en étant devenu prix Nobel de littérature. Oui, j'admire votre humilité.
Non, c'est pas ça, c'est que on peut être pris de n'importe quoi et écrire de fort mauvaises choses. Et donc j'avais envie de lui dire non, mais ce n'est pas gratuit, il y a quelque chose. J'ai été motivé par une raison supérieure à la vanité. J'ai voulu dire quelque chose dans ce recueil.
Et si la plume de Le Clésio se range souvent du côté des opprimés, comme il le dit une nouvelle fois ici, le papier sur lequel il écrit, héritage des années où il a vécu au Mexique, n'a pas été choisi au hasard, confidence du prix Nobel de littérature.
J'écris encore aujourd'hui sur des feuilles de papier qui s'appellent Revolution, parce que j'ai acheté un stock de papier qui servait à imprimer les slogans de la révolution mexicaine. Il était bon marché parce que les révolutionnaires mexicains n'avaient pas les moyens. Et il est assez durable et il est fait, je dirais, à 50% de chiffon. Donc il résiste bien au temps, il ne se décompose pas. Donc j'écris sur un papier de manifeste et de slogan.
Quel symbole !
La révolution mexicaine, ça a été la première révolution populaire spontanée qui a éclaté dans l'état de Veracruz parce que les gens étaient maltraités par les propriétaires des sucreries.
Et pas la nôtre, la Révolution française.
Ouais, c'est une révolution bourgeoise, la Révolution française. Elle a décapité des gens qui auraient pu influer sur la Révolution. Condorcet, par exemple, c'était absurde. Et elle a laissé passer des gens terribles comme Bonaparte.
La chute, effectivement, méritait qu'on puisse en parler plus longuement. Il n'écrit donc pas sur ordinateur ou avec un ordinateur. Ça, c'est intéressant.
En tout cas, pas le premier jet, oui.
Bon, quel personnage met-il en scène, Le Clésio, dans son nouveau livre ?
Eh bien, des enfants, la plupart du temps, les plus exposés aux injustices, mais à l'élan vital inépuisable, qu'il s'agisse d'une orpheline de l'océan Indien qui trouve son salut dans le champ, de gamins mexicains qui traversent la frontière avec les États-Unis par les égouts, ou de ces gosses bouleversants qui fuient la guerre au Proche-Orient ou la guérilla au Pérou.
Et Le Clésio parle-t-il aussi de ce qui se passe chez nous, Bernard ?
Oui, bien sûr. Dans la nouvelle intitulée Fantômes, il s'intéresse aux marginaux de nos villes, devenus invisibles pour les passants, sauf pour l'œil d'une caméra de surveillance, et c'est elle, dans ce texte, qui raconte une idée très originale et un texte que Le Clésio dédie à sa fille Ami, nouvelle et surprenante confidence de l'écrivain.
Alors l'idée, ça vient directement d'Ami, c'est elle qui a eu l'idée. Et si tu racontais cette histoire du point de vue d'une caméra vidéo ? Ah, bon, oui, c'est une bonne idée.
Et donc un prix Nobel de littérature peut écouter les idées que lui suggère sa fille. Je trouve ça très touchant.
C'est touchant ou c'est inquiétant parce que je vampirise beaucoup les gens autour de moi, donc ça m'a paru une bonne idée.
Voilà. Alors, mais l'histoire la plus émouvante et la plus personnelle racontée par Le Clésio, lui dont les aïeux venaient de l'île Maurice, est celle où il se souvient de la chanson d'esclave que lui chantait sa grand-mère pour le rassurer sous les bombes allemandes.
Ce chant était la voix de cette dame qui avait éduqué toute ma famille, Yaya, qui voulait dire simplement la nourrice, qui était probablement d'origine malgache ou du Mozambique, était entrée dans ma famille très tôt. Elle avait eu entre les mains mon grand-père qui avait été un enfant dont elle s'est occupée, ensuite mon père, et par rebondissement, ma génération, nous étions aussi les enfants de Yaya. Ma grand-mère, mon grand-père transmettaient ce message de Yaya sur la douleur que c'est d'être esclave et d'avoir à travailler dehors quand grand immun qui wape faire. Il n'y a que les grands de ce monde qui peuvent rester chez eux. Les petits, comme elle, devaient vivre dehors, s'abriter comme il pouvait de la pluie et du soleil. Le refrain, c'est « Why, why, mes enfants, faut travailler pour gagner son pain. Why, why, mes enfants, faut travailler pour gagner son pain. »
Voilà, le créole de l'île Maurice, si cher à Jean-Marie Gustave Le Clésio. J'ai essayé de lui faire chanter en plus du refrain, mais bon, il n'a pas osé aller jusque-là.
Déjà pas mal.
Je disais tout à l'heure que vous êtes capable de nous parler de Guillaume Musso comme de Le Clésio. Le Clésio a parfois une réputation d'auteur difficile. J'ai l'impression, en vous écoutant, que ses nouvelles sont accessibles au grand public.
Mais bien sûr.
sûr, mais non, non, mais il a toujours eu une écriture très accessible, extrêmement charnelle, colorée, et donc on retrouve ses qualités dans son nouveau livre, ce recueil de nouvelles, Avert, des nouvelles des indésirables, c'est le sous-titre, et c'est publié chez Gallimard.
Eh bien, merci Bernard, il est 12h58, dans quelques instants, c'est vous qui prenez la parole au 30 de 10.
RTL Midi.